Dans le cadre de la journée de France Culture consacrée à nos vies numériques, pendant laquelle toutes les émissions réfléchissent aux changements qu'ont provoqué dans nos vies justement ce numérique, nous allons nous intéresser aux conséquences de ces technologies sur notre discipline, l'histoire. Comme chaque mois, cette émission s'ouvrira ce matin sur notre séquence La Fabrique Mondiale de l'Histoire en partenariat avec le mensuel Histoire. Ce matin, Valérie Hanin, qui dirige la rédaction de l'Histoire, et moi-même interrogerons Kmar Bendana, professeur à la Manouba de Tunis, qui sera en duplex avec nous depuis les studios de la radio tunisienne et qui vient d'écrire pour le dernier numéro des collections de l'Histoire titré De Carthage à Tunis, 3000 ans d'exception. Elle vient d'écrire un article dans ce numéro, mais elle est aussi avec nous parce qu'elle est une historienne du contemporain et que depuis le début de la révolution tunisienne, elle publie un blog sur son analyse, pourrait-on dire, de cette révolution en cours sur hypothèse.org. Et puis, en deuxième partie de cette émission, nous recevrons Sébastien Poublan. Sébastien Poublan est docteur en histoire moderne au laboratoire Framespa de Toulouse. Il est ingénieur de recherche en humanité numérique. Il nous expliquera ce que c'est. Il est coordinateur scientifique du site Euchronie et rédacteur en chef adjoint de Mondes Sociaux. Il sera rejoint par Vincent Ozas qui participe avec lui justement à cette expérience qui s'appelle Euchronie, qui est une façon de glaner à l'intérieur du web tous les sites qui sont intéressants en matière d'histoire. Et pour finir, Catherine de Copé, dans sa séquence mensuelle La Fabrique de l'Autre, s'intéressera à un autre très particulier, à un autre numérique, le geek. Elle nous expliquera d'où vient ce terme. Et pour commencer, bonjour Valérie Hanin.
Bonjour.
Pour notre séquence mensuelle, donc consacrée à l'histoire mondiale, vous avez choisi avec nous d'inviter Kmar Bendana. Elle participe au dernier numéro des collections de l'histoire, un très beau numéro consacré à l'histoire de la Tunisie depuis Carthage jusqu'à Tunis, où il y a des contributions très intéressantes d'énormément d'historiens de cette région, mais aussi de ceux qui ont travaillé, par exemple, sur la Carthage antique ou encore sur l'Empire romain dans cette région. Et parmi eux, ces historiens, et parmi elles, il y a évidemment Kmar Bendana, qui est notre invité aujourd'hui en duplex depuis Tunis. Vous nous la présentez ?
Alors, Kmar Bendana, vous êtes donc professeur à la Manouba de Tunis, et vous êtes aussi, puisque aujourd'hui la journée est sur France Culture consacrée au numérique, vous êtes aussi une historienne qui tient un blog. Alors, qu'est-ce que l'historienne dans la tourmente, dans cette Tunisie qui depuis 5 ans est en proie quand même à une véritable tempête politique? On n'en est pas tout à fait sorti, puisque la mort par électrocution le 18 janvier dernier à Kasserine d'un jeune diplômé qui n'arrivait pas à trouver du travail a déclenché dans tout le pays un mouvement de contestation qui a entraîné des morts, des arrestations et finalement le retour au calme, mais au prix du couvre-feu. Cette mort fait écho à une autre mort il y a 5 ans. Le 17 décembre 2010, à 70 km de Kasserine, à Sidi Bouzid, Mohamed Bouaziz, un jeune marchand ambulant, s'immolait par le feu après qu'on lui eut confisqué son chargement de fruits et de légumes. On le sait, c'était le début d'une révolution qui, en 28 jours, renversa le gouvernement policier de Ben Ali et enclencha les printemps arabes. Alors, depuis 5 ans, le petit pays calme n'a guère connu de répit. En 2011, la partie islamiste Ennahda créait la surprise en remportant la majorité, même relative à la constituante, ce qui lui permettait d'accéder au pouvoir. Pour 2 ans seulement, car il effraie et déçoit, et l'année 2013 est celle des assassinats politiques. Des assassinats politiques d'opposants libéraux. En janvier 2014, le pays se dote d'une constitution la plus démocratique du monde arabe et on élit un président au suffrage universel. En 2015, la stabilité est rompue, ce sont les attentats sanglants de Sousse, du Bardo, qui affaiblissent encore une économie qui était pourtant présentée en 2007 comme la première économie du continent. Alors, au milieu de cette tourmente, l'historien, quel peut être son rôle? Comment s'inscrit-il au plus chaud de l'événement ? Vous, Kumar Bendana, professeur d'histoire, spécialiste d'histoire politique et des intellectuels de la Tunisie, vous êtes entré dans la révolution, comme vous le titrez joliment dans un article d'un numéro spécial de l'année du Maghreb. Vous êtes entré dans la révolution et vous avez choisi d'y entrer, c'est bien le jour d'en parler aujourd'hui, en tenant un blog sur hypothèse.org. Alors, ouvrir un blog, Kumar Bendana, est-ce que c'est faire de l'histoire ?
Kumar Bendana ?
Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que entrer dans la révolution tunisienne, vous notez le mot entrer, et moi je dirais que j'ai ouvert un blog pour sortir hors des murs de l'université, hors des murs aussi d'une certaine forme d'expression académique, donc hors de mon monde professionnel et de mon monde universitaire. Peut-être aussi parce que la seule manière de participer à cette révolution, c'est peut-être de faire l'histoire autrement, ou en tout cas d'écrire autrement, ou en tout cas d'écrire pour d'autres, changer de cible, changer aussi de rythme d'écriture. Moi, j'écris en français, enfin j'utilise l'arabe et l'anglais pour enseigner ou pour débattre, etc. Mais je n'écris qu'en français parce que j'écris laborieusement. Et donc, voilà, je pense que c'est pour sortir aussi hors de certaines limites, hors de certaines contraintes, hors de certains murs, tout en restant historienne, parce que je ne peux pas faire autrement.
Ça veut dire que vous utilisez donc le net comme une sorte de lieu du porte-voix, et vous qui êtes spécialiste des intellectuels justement en Tunisie, en tant qu'historienne, Kumar Bendana, vous prenez d'une certaine façon ce nouvel outil. Ça n'est plus la presse comme à la fin du 19e siècle pour Zola ou pour d'autres, c'est le net qui peut vous servir d'endroit où vous pouvez porter votre parole en tant qu'intellectuel, en tant qu'historienne vis-à-vis d'une société donc en mouvement.
Je dois avouer que c'est un geste ou c'est un réflexe assez intuitif, pas du tout réfléchi, mais il me semble que je crois qu'il y avait quelque chose comme ça dans mon inconscient, si je puis dire, parce que j'ai pensé à la presse, ou j'ai pensé à la radio aussi, parce que la radio a été extrêmement importante pour l'histoire contemporaine de la Tunisie, la télévision aussi, mais un peu plus tard. Mais je pense que j'ai fait ça d'une façon peut-être innervée par ma connaissance de l'histoire, mais pas du tout consciente. N'y réfléchis au début. Le fait est que j'ai eu tout de suite du retour, puisque n'étant pas très lu avec mes articles scientifiques et en français de surcroît, j'ai eu de toute façon tout de suite des retours, des réactions, des lecteurs, etc. Et tout ça m'a encouragé à rester sur ce mode d'expression.
Oui, c'est-à-dire que dans les années 60 et 70, s'inventait difficilement et lentement la question de l'histoire du temps présent, de l'histoire de l'immédiat. L'histoire immédiate, disait-on, en disant mais on confond le journalisme et l'histoire, etc., etc. Et d'ailleurs, l'histoire, le magazine est né plus ou moins de ce mouvement de ces années-là, de la fin des années 70 et du début des années 80. Et vous-même, vous êtes dit, eh bien, il y a là une possibilité pour l'historienne que je suis d'intervenir dans l'espace social et de prendre au sérieux le rôle social de l'historienne que vous êtes.
Je suis très influencée par l'histoire française, puisque j'ai fait une partie de mes études et ma thèse en France. Je suis sûre que je suis sous influence de l'école historique française, qui a beaucoup d'influence, vous le savez, et beaucoup de rayonnement. Mais je ne sais pas si j'ai réfléchi à ça comme dans ces termes-là. Ce que je remarque, en tout cas, c'est que parmi mes collègues, depuis 4 ou 5 ans, on parle beaucoup d'histoire immédiate, beaucoup d'histoire du présent, etc. Ce sont des termes que l'on emploie beaucoup pour parler effectivement de cette histoire que nous sommes en train de vivre. Oui, le terme est entré dans les usages historiens, dans les usages professionnels en Tunisie. Mais je ne sais pas s'il est tout à fait valable pour nous, parce que vous l'avez fait en France, peut-être dans une période glorieuse ou dans une période peut-être de crise de la discipline, mais peut-être pas politiquement aussi tourmentée que la nôtre. Je ne sais pas si le parallèle peut être fait comme ça, mais c'est un emprunt, c'est sûr. Je pense que c'est un emprunt et une influence qui est entrée par la profession de l'histoire et par l'importance de l'école historique française un peu partout dans le monde et au Maghreb en particulier.
Valérie Hanin.
Vous écrivez « Je me sens plus chroniqueuse qu'historienne ». Oui, je reviens à ma question. Tenir un blog, en quoi est-ce faire de l'histoire et de l'histoire à chaud? Est-ce que c'est pour témoigner? Est-ce que c'est pour échanger? Est-ce que c'est pour analyser? Est-ce que c'est poser des cailloux blancs pour la suite?
Écoutez, pour tout cela à la fois, parce que le mot chroniqueuse me plaît bien, parce qu'il fait un peu ancien et puis qu'il épouse un peu mes gestes intellectuels, c'est-à-dire que c'est une manière de consigner, mais c'est aussi une manière de choisir, c'est-à-dire que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout écrire, même les journalistes ne peuvent pas tout faire et tout écrire. Ce qui me semble, en tout cas, m'occuper beaucoup, c'est d'abord de relier l'actualité à ce qui a pu être l'histoire de la Tunisie. Voilà, ce travail de pour relier un peu, mais aussi pour relire, hein. Relier et relire, je pense, mais aussi relier et relire la production historique tunisienne en fonction de l'actualité en cours. C'est-à-dire que quand il y a eu la constitution, je suis allée retourner vers les constitutions tunisiennes précédentes, parce que vous savez, il y a une culture politique très, très innervée par le constitutionnalisme français aussi, et même s'il y a eu une constitution avant le protectorat, c'est-à-dire avant l'occupation politique de la Tunisie, il y avait une culture politique déjà influencée par la culture politique européenne et plus particulièrement la culture politique française. Et donc la constitution tunisienne de 1861 était elle-même une expérience transposée en Tunisie par des hommes politiques, par des hommes politiques qui étaient déjà sensibles à la politique européenne, à l'ambiance intellectuelle et politique, avant même l'occupation politique par la France. Donc voilà, c'est relié ces faits d'aujourd'hui à des faits historiques passés et puis à des phénomènes aussi qui ont marqué peut-être l'histoire tunisienne contemporaine. Ce constitutionnalisme, moi je pense que c'est une constante un peu dans l'histoire politique tunisienne et puis une sorte de passerelle entre ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire l'histoire culturelle, l'histoire des idées ou l'histoire intellectuelle et l'histoire politique.
Valériana.
Alors justement, vous nous parlez de cette constitution de 1861 qui était la première, on l'a souvent oublié ici, de l'Empire ottoman, de la première des constitutions ottomanes. Est-ce à dire que vous entrez dans ce qu'on peut peut-être appeler un cliché qui est souvent utilisé de l'exception tunisienne que nous-mêmes nous avons choisi d'inscrire en thème de notre numéro spécial de l'histoire? Est-ce qu'il y a une exception tunisienne? Au fond, il y a aussi cette indépendance qui en 1956 donne un statut tout à fait exceptionnel aux femmes dans un pays arabe, dans un pays d'islam. Est-ce que ça existe, l'exception tunisienne? Est-ce que c'est une illusion? Et si elle existe, d'où vient-elle? Comment l'expliquer?
Je pense que c'est un regard et je pense aussi que c'est une formule commode. C'est une formule aussi à connotation positive. Il n'y a pas de raison de la refuser, mais peut-être aussi qu'il faut la préciser. Il y a aussi un autre mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le mot laboratoire, etc. Donc, moi, je ne suis pas contre l'usage de ces mots parce que ce sont des raccourcis et qu'ils expliquent des choses. Mais moi, je dirais que chaque pays aussi a une histoire propre et je pense qu'il y a une histoire tunisienne, peut-être pas assez connue et du coup, les clichés sont plus faciles à utiliser. Peut-être qu'en remontant cette histoire, en la détaillant, on renoncera à ce mot un peu de marketing, si vous voulez. Mais de marketing au sens banal du terme, c'est-à-dire, voilà, je crois que la Tunisie a une histoire spécifique, peut-être pas assez connue, peut-être pas assez reliée à l'histoire de la région, du Maghreb, de la Méditerranée, de l'Europe, du Machrek, etc. Et c'est en faisant ce travail-là que l'on peut voir peut-être comment elle est intégrée dans cette histoire, comment elle en fait partie, si vous voulez. Donc il y a effectivement un travail d'isolation à faire. Et si dans ce travail pour isoler cette partie Tunisie, on veut lui mettre le nom exception ou le mot laboratoire ou le mot spécificité, bon, tous les mots sont commodes pour avancer et pour penser.
Dans un entretien que vous mettez sur votre blog sur hypothèse.org, Kumar Bendana, vous expliquez qu'évidemment une révolution c'est un tremblement pour un pays comme la Tunisie et ça incarne aussi, comme le disait Milan Kundera, la beauté soudaine d'impossible. Et vous nous dites justement que votre travail d'historienne a été bousculé par cela puisque vous avez commencé à écrire pour la presse tunisienne, vous n'avez jamais fait ça auparavant et jamais avant le départ de Ben Ali, le 25 janvier 2011 pour un journal qui s'appelle La Presse, qui vous interroge d'ailleurs, et c'est à cette occasion-là que vous précisez cette prise de conscience que vous avez eue vis-à-vis de l'actualité. Et vous dites quand même, ma formation d'historienne, mon métier d'historienne, m'a obligé par exemple à distinguer ce qui était en train de se faire par rapport à d'autres révolutions. Certes, j'avais lu Karl Marx et Agulon pour parler de la révolution de 89 ou celle de 1848, mais il faut dire que cette révolution tunisienne, par mon travail d'historienne, je la distinguais des autres par une ou deux qualités qui étaient très différentes, Marc Bentana.
Oui, et à part l'émotion du début, c'est-à-dire l'émotion humaine qui vous prend parce que c'est un événement qui est plein d'inconnus et plein d'imprévus et qu'on a vécu beaucoup dans une ambiance assez calfeutrée et puis peut-être assez étouffée. Voilà, quand vous sortez dans les courants d'air, tout d'un coup, alors que vous êtes confiné, vous avez un peu peur et l'écriture a été une réaction contre cette peur de l'inconnu, etc. Mais après, en tant qu'historienne, effectivement, quand on a commencé à utiliser le mot révolution, des lampes s'allument dans votre tête. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est une révolution. Est-ce que c'est une révolution? Qu'est-ce que ça veut dire révolution? Donc, qu'est-ce que ça va nous entraîner pour nous, etc. Et le fait d'être historienne, voilà, m'a mise un peu sur ces questionnements, sur ces lectures à ce moment-là, parce que j'avais besoin moi-même de comprendre, mais d'une façon peut-être qu'il n'était pas adapté, parce que il fallait agir à ce moment-là. Et moi, je n'étais pas dans l'action, je ne suis pas dans la classe politique, je ne suis pas dans les militants, je ne suis pas dans un parti, je ne suis pas dans une association, c'est-à-dire que j'étais dans mon coin, et voilà, je me suis rabattue sur ce que je sais faire. Donc, lire autour des révolutions et reprendre un peu ma culture de métier, quoi.
Et dire effectivement que la particularité, c'est la participation massive des femmes dans cette révolution tunisienne, mais aussi le rôle joué par Internet, c'est ce que vous précisez. Valérie Hanin.
Oui, vous vous êtes tout de même engagée. Et du coup, est-ce que vous voyez, est-ce que cette expérience de l'engagement, de l'écriture, du blog, de l'échange démultiplié par Internet, est-ce que tout cela vous fait voir un peu autrement vos belles figures d'intellectuels que vous étudiez comme historienne? Est-ce que, parce que c'est aussi ça la spécificité de la Tunisie, ces intellectuels qui circulaient dans les années 20 et 30, parlez-nous un peu de quelqu'un que vous connaissez bien, comme Talbi par exemple. Est-ce que vous sentez proche de ces intellectuels que vous avez étudiés comme objet?
Oui, tout ce que j'ai fait est extrêmement gratifiant comme historienne parce que ça m'a permis de voir les choses autrement, y compris dans ma spécialité de recherche. D'abord, l'attention à ce qu'on peut appeler les vecteurs de circulation, les modes d'expression, les formes d'expression que peuvent emprunter les intellectuels. Justement, l'histoire des intellectuels en Tunisie est beaucoup une histoire des idées. Et moi, je suis plutôt sensible à l'histoire des formes, des vecteurs, etc. Et j'aimerais bien qu'on systématise un petit peu cette approche. Et je dois dire que ces 5 ans m'ont apporté beaucoup d'éléments de réflexion, beaucoup de manières d'interroger autrement. Et Internet, effectivement, pour moi, c'est une sorte de point de comparaison avec la radio et la presse qui ont été très importantes dans différentes séquences de l'histoire contemporaine de la Tunisie. Mais ce qui m'a été aussi donné d'observer, c'est peut-être aussi de comprendre la place de l'histoire dans la vie intellectuelle et dans la vie politique. C'est-à-dire comment est-ce que la mémoire et l'histoire se conjugue aussi pour donner une nouvelle dynamique au rapport entre les intellectuels et la politique. Et puisque vous me citez Thalbi, moi j'avais travaillé dessus depuis 1900, il y a plus de 15 ans, en tout cas que j'avais bouclé mes derniers travaux. Et je suis revenue dessus pour faire pour faire l'introduction d'un ouvrage. J'ai dû relire mes travaux et relire des archives. Et du coup, je me suis aperçue que c'était quand même quelqu'un qui est entré dans son temps par les moyens de son temps, c'est-à-dire par la presse, par les associations. C'est aussi quelqu'un qui a fondé le premier parti de Tunisie. Donc, c'était une sorte de, comment dire, à la fois de pionnier, mais d'artisan aussi de ce que vont être les moyens de la politique en Tunisie à partir des années 20. Et donc, voilà, je l'ai relu encore plus dans l'optique qu'est-ce que les idées intellectuelles et qu'est-ce que la connaissance des formes d'expression ailleurs dans le monde peut apporter à un intellectuel local. L'intellectuel local qui était Thalbi, mais il n'était pas seulement local, il était aussi très transnational parce qu'il a beaucoup voyagé dans beaucoup de pays, de l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, etc., qui était un peu son monde. C'était un homme assez cosmopolite. Et ça m'intéressait beaucoup de se comprendre comment est-ce qu'un intellectuel de cette époque-là pouvait à la fois être le réceptacle de toute cette effervescence qui se passait entre le Machrek et le Maghreb, mais aussi être l'inventeur de nouvelles formes de vie politique, comme le parti, l'association, le journal. Il a travaillé dans un journal à 19 ans. Enfin, moi, j'étais frappée par ça, et qu'il a fondé aussi les premières associations, alors qu'il avait une formation qu'on peut dire traditionnelle. C'était quelqu'un qui venait de la Zitouna, donc on aurait pu croire que tout ça lui était étranger ou complètement lointain. Eh bien, il a adapté, il a acclimaté toutes ces idées-là avec sa culture traditionnelle, sa formation traditionnelle de lettré de la mosquée université de la Zitouna.
D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur Thalbi, eh bien, il faut lire votre blog, parce que il y a là aussi plusieurs interventions de vous-même sur Thalbi, sur cet intellectuel tunisien en politique. Et effectivement, vous notez qu'il fondait Sabil El Rachet à 19 ans et qu'il a participé évidemment à tout ce mouvement intellectuel du début du siècle, du 20e siècle à Tunis et en Tunisie. Est-ce que vous avez l'impression, Omar Bendana, que ce travail de l'historienne posté sur le net vous donne un autre écho, fait en sorte qu'au bout du compte, vous avez dans le monde entier une audience que vous n'auriez peut-être pas si vous étiez resté à Tunis en train de publier des articles savants dans des revues universitaires et d'organiser, comme vous le faites toujours évidemment, des colloques, des journées d'études, etc., etc.
Écoute, dans le monde entier, où audience c'est un peu fort, mais en même temps, quand même, par rapport à ce que je faisais, par rapport à mon isolement et mon confinement et mon soliloque, si je puis dire, eh ben voilà, j'ai de l'écho, j'ai des retours, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent voilà, je vous ai lu. C'est très très gratifiant quand on est intellectuel en Tunisie et un intellectuel de mon acabit, parce que moi j'étais un peu dans derrière les douves de l'université. Donc, c'est extrêmement stimulant, c'est sûr. Et voilà, moi, maintenant, ce blog, je ne dis pas que j'ai une accoutumance, mais presque. C'est-à-dire que quand je passe 2 ou 3 semaines à ne pas avoir écrit, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux bien écrire pour reprendre le contact. C'est-à-dire voilà, c'est moi qui suis obligée aussi d'assurer la continuité et de donner des signaux, si je puis dire. Voilà, je me sens comme quelqu'un qui donne des signaux et qui attend du retour. Mais je trouve que dans cette période un peu tourmentée, un peu difficile en Tunisie, ça fait du bien quand même. C'est comme quand vous êtes dans un endroit, j'exagère peut-être, mais vous envoyez des signaux et des gens vous répondent. Donc, du coup, vous vous sentez pas seul. Et c'est très important de ne pas se sentir seul quand on est intellectuel en Tunisie aujourd'hui. C'est extrêmement important. Donc voilà, ça me permet de continuer à vivre, à écrire, à penser, à être contredite, à parler dans votre émission, etc. Donc tout ça est pour moi très positif.
Valériana.
Est-ce que c'est la force de ce débat démocratique, puisqu'au fond vous participez à un débat démocratique en vous inscrivant dans cette tradition des intellectuels, cette grande tradition des intellectuels libéraux tunisiens, est-ce que c'est ça qui fait que la Tunisie était non seulement le premier, mais le seul des pays qui a fait, il y a 5 ans, la révolution, le participé, lancé le mouvement des printemps arabes et qui a gardé le cap, comme le dit Karima Diresh dans notre numéro, de la transition démocratique. Pourquoi c'est le seul pays? Qu'est-ce qui fait sa force? Même, qu'est-ce qui fait que la Tunisie maintient le cap?
Je pense que la spécificité de la Tunisie, c'est peut-être ce rapport entre les intellectuels et le politique qui persiste depuis plusieurs décennies maintenant, en tout cas qui se précise et que je connais en tout cas pour les dernières décennies. Il me semble qu'il y a deux choses qui sont très importantes et qui se voient dans l'immédiat, peut-être de manière assez floue. D'abord, à mon avis, une effervescence intellectuelle et artistique qui me frappe beaucoup et qui n'est pas extrêmement vue, extrêmement visible parce qu'il n'y a pas une infrastructure qui la met en valeur, il n'y a pas une politique culturelle, il n'y a pas de mécénat, il n'y a pas de politique publique de l'État conséquente, il n'y a pas un service public conséquent, etc. Mais je pense qu'il y a une production et une activité culturelle qui sont extrêmement accélérées et si elles sont accélérées pendant ces 5 ans, c'est qu'il y avait un substrat, c'est qu'il y avait déjà des éléments, en tout cas une productivité, une créativité qui était là avant, donc beaucoup de poètes dans le monde de la chanson et de la musique, dans le monde de la peinture aussi, la peinture de Chevalet est entrée très tôt à la fin du 19e siècle en Tunisie par rapport à d'autres pays. Le cinéma aussi, en tout cas, qui existe, mais qui a aussi explosé. Puis il y a plus de 200 films en 5 ans à peu près. Le théâtre a toujours été extrêmement actif, un peu comme en Égypte, si vous voulez, depuis le début du 20e siècle. Une littérature bilingue, 2/3 en arabe et à peu près 1/3 en français. Et puis, une tradition de l'essayisme, alors qu'il compte un peu entre le journalisme, la politique, l'observation de l'économie aujourd'hui, etc. Donc voilà, une tradition intellectuelle, un essayisme politique, et à mon avis, a été aussi beaucoup développé à cause du support journal depuis le début du 20e siècle. Voilà, tout ça, cette effervescence-là qui aujourd'hui existe, malgré le manque d'infrastructures, si je puis dire, est pour moi significatif de beaucoup d'antécédents et de choses qui existent dans la société. Et puis le deuxième point, qui est celui des femmes, qu'on attribue beaucoup à Bourguiba et au code du statut personnel de 1956, et à mon avis a raison, mais Bourguiba lui-même est le produit de cette société tunisienne, c'est-à-dire que si lui-même a introduit toutes ces réformes autour de la famille et de la femme, parce que ce sont des réformes autour de la famille et de la femme, et de la place de la femme, et contre la polygamie, etc., c'est que lui-même est dans une société tunisienne où il y a eu des intellectuels avant qui se sont occupés et des intellectuels avant lui qui l'ont introduit à cette idée, à cette nécessité politique. Et par exemple, quelqu'un comme Taher al-Haddad, qui a vécu dans les années 30, qui a écrit sur ce sujet dans les années 30, Bourguiba en est le direct applicateur, si vous voulez, sur le plan politique. Donc Bourguiba lui-même est issu de ce chaudron intellectualo politique de la Tunisie du début du 20e siècle, dans lequel les intellectuels traditionnels comme Abdelaziz Thalbi, comme Taher al-Haddad ont servi de père, d'inspirateur, de prédécesseur aussi.
Merci Gmar Mendana de nous avoir aussi longuement expliqué à la fois votre place d'historienne dans la société en mouvement qu'est la société tunisienne aujourd'hui, mais également la place de ces intellectuels tunisiens qui ont joué un rôle politique depuis le début du XXe siècle, qu'on a bien compris en vous écoutant. D'ailleurs, on pourra en savoir plus en se plongeant dans le numéro de l'Histoire auquel vous participez, les collections de l'Histoire. Ce numéro est titré « De Carthage à Tunis, 3000 ans d'exception » et vous y écrivez un article sur l'essor d'une capitale coloniale. Vous êtes professeur à l'université de la Manouba de Tunis, mais vous êtes aussi, et c'est pour cela que vous étiez dans cette journée consacrée au numérique sur France Culture et au numérique en lien avec l'Histoire, vous êtes aussi l'auteur d'un blog qui s'intitule HCTC, Histoire et Culture dans la Tunisie contemporaine. Merci beaucoup et remerciez autour de vous nos collègues de la Radio Nationale de Tunis qui vous ont accueillis dans leur studio. Merci Valérie Hanin. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Fabrique mondiale de l'Histoire.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et cette Fabrique de l'Histoire, dans le cadre de la journée sur le numérique de France Culture, s'intéresse au rapport entre histoire et nouvelles technologies numériques et monde numérique, en l'occurrence. Et nous avons, puisque nous sommes dans une perspective mondiale, nous continuons à être dans une perspective mondiale, nous avons avec nous Vincent Ozas, qui est depuis le Canada. Bonjour Vincent Ozas, il doit être très tôt au Canada, quelle heure est-il ?
Bonjour Emmanuel, il est 3h35.
Voilà, vous êtes donc responsable d'un programme de recherche qui s'appelle Itinéraire, donc à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et vous travaillez sur un atelier, co-animé un atelier qui s'intitule « Environnement numérique et écritures historiennes ». Et vous êtes également, avec Sébastien Poublanc, vous participez à une initiative dont on va parler qui s'appelle « Euchronie ». Bonjour Sébastien Poublanc.
Bonjour Emmanuel.
Merci
bonjour
d'être Vincent. Là. Vous êtes docteur en histoire moderne, vous êtes spécialiste de l'histoire de la forêt en particulier.
Tout
Comptez les arbres, c'était le titre de votre thèse. Mais depuis quelque temps, vous vous intéressez aux humanités numériques. Qu'est-ce que les humanités numériques ?
Alors, les humanités numériques, en fait, c'est un courant transdisciplinaire qui a émergé dans le monde anglo-saxon aux alentours de 2006 et qu'on peut résumer assez simplement en fait comme une réflexion sur la manière dont l'ordinateur couplé à Internet modifie les pratiques de chercheurs en sciences humaines et sociales, particulièrement appliquées à l'histoire. Dans notre cas, dans notre discipline, histoire, ça induit à réfléchir sur les outils, comme les outils en information et en communication, des blogs hypothèses dont Marc Bandana vient de nous parler.
Blogs hypothèses, ce sont des blogs d'historiens qui font un carnet de recherche. Ils racontent comment avancent leurs recherches au fur et à mesure qu'ils les font.
Par exemple, oui, ça peut être l'un de ses objectifs. Ou alors, ça peut être aussi présenter des projets de recherche. Euchronie dispose de son carnet sur hypothèses où on présente les avancées du projet, le corpus, des choses comme ça. Ça peut être aussi réfléchir sur des sources. Gallica en est sans doute le meilleur exemple. Mettre à la disposition d'un public un ensemble de corpus numériques.
C'est le blog, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France qui met à disposition effectivement des ouvrages numérisés qu'on ne pouvait trouver qu'à la Bibliothèque nationale de France physiquement.
Tout à fait. Et d'autres dépôts comme les dépôts d'archives départementaux font la même chose sur d'autres corpus. C'est aussi réfléchir sur la manière dont l'écriture en histoire se modifie. Est-ce qu'on écrit toujours au XXIe siècle comme on le faisait le siècle dernier ? Est-ce que les supports sont les mêmes ? Est-ce que les manières de modéliser l'histoire et de la restituer évoluent ? Et enfin, c'est prendre en compte les apports des autres disciplines, en infocommunication par exemple, pour le développement d'outils, pour l'enseignement, dont Zotero, logiciel de bibliographie par exemple, est l'une des émanations les plus connues.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce site qui s'appelle Euchronie, E-U-C-H-R-O-N-I-E. Donc, la semaine prochaine, on parlera d'Uchronie dans la Fabrique de l'Histoire, toute la semaine, de l'histoire des possibles, à partir du livre en particulier de Quentin de Luermoz et de Pierre Saint-Garavelou sur cette histoire du possible. Vous, c'est Euchronie. Vous allez chercher, vous appelez ça moissonner, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous allez moissonner au fond du web des sites qui parlent d'histoire. Et ça peut être des sites d'amateurs comme des sites d'historiens professionnels, c'est cela ?
Exactement. En fait, c'est un projet donc, du coup, qui est mené à l'échelle internationale, puisqu'on a une équipe de 19 participants en France, en Suisse et au Canada, dont Vincent est l'un des participants aussi, et qui est coordonné par ma part et avec Rémi Besson, qui est en postdoctorat à l'Université de Montréal. Donc, l'idée est partie d'un constat. En fait, c'est qu'il existe sur Internet une multiplicité de contenus qui portent sur le passé, et ces contenus qui ont été autopubliés par des amateurs ou par des professionnels selon une pluralité de médias, qu'il s'agisse de blogs dont on vient de parler, mais aussi de chaînes YouTube, d'utilisation détournement d'autres réseaux sociaux comme peut l'être le projet Photo Normandie sur Flickr. Voilà, donc l'idée c'est de créer un agrégateur par le biais d'un petit logiciel qui s'appelle PressForward, qui va agréger de manière semi-automatique les contenus de ces différentes sources pour réaliser un corpus qui va mettre en évidence en fait la manière dont la société s'approprie l'histoire, qu'il s'agisse d'une histoire faite par des historiens professionnels ou alors des amateurs.
Alors Vincent Ozas, vous faites partie de ces moissonneurs, de ce groupe volontaire d'historiens bénévoles qui vont au fond du net chercher justement des blogs qui leur apparaissent intéressants. Qu'est-ce que nous dit cette initiative de ce foisonnement, pourrait-on dire, d'initiative justement autour du numérique en histoire ?
Eh bien, ça nous dit essentiellement qu'il y a une production sur le passé qui a cours en permanence en ligne et qu'il s'agit d'aller l'interroger, à sa fois pour son contenu, mais aussi pour ce qu'il peut en dire en tant que production historiographique.
C'est-à-dire, il y a à la fois un regard sur les centres d'intérêt, pourrait-on dire, de cette sphère numérique autour de l'histoire, autour du passé, mais aussi un regard porté sur la production purement scientifique.
Exactement, c'est-à-dire que la façon d'écrire l'histoire peut être également interrogée à ce niveau-là.
Sébastien Poublan.
Tout à fait. En fait, l'idée de Chronie, c'est aussi de faire émerger une histoire qui soit moins logocentrée, mais plutôt intermédiaire, utilisant une pluralité de contenus, de manières de raconter de l'histoire, et non plus exclusivement du texte.
Alors, c'est intéressant, parce que pour l'instant, vous avez, avec vos moissonneurs, récupéré une moisson d'environ 100 sites que vous avez mis sur le site de Chronie. Alors, il y a à la fois les Archivum Rhenanum, donc les archives numérisées du Rhin supérieur, mais il y a aussi Confession d'Histoire, dont on parlera bientôt dans la Fabrique de l'Histoire, oui. qui est une sorte de démarque, pourrait-on dire, des travaux, ou plutôt des initiatives, par exemple, qui étaient liées, comme Kaamelott, à la façon dont on raconte l'histoire. Mais là, de façon assez drôle, mais également extrêmement sérieuse au point de vue des sources. Donc, ce sont des petits films qu'on peut trouver sur le net. Il y a donc à la fois Fantaterror, le cinéma fantastique horrifique espagnol sous le tardofranquisme, par exemple. Ça, c'est un site qui a été moissonné par vous. Genre et Europe, Grégoire de Tours. Et puis, des choses qui s'appellent, par exemple, La Petite Histoire. Et je crois que c'est vous qui avez fait la chronique sur La Petite Histoire. Et, oui. Et c'est étrange parce que là, on a vraiment une histoire qu'on pourrait considéré comme vraiment l'idée qu'on se fait de la petite histoire, même si c'est sérieusement mis en scène, puisque ce sont des petites vidéos de YouTube. Mais on se dit, tiens, c'est marrant de mettre tout cela ensemble, c'est-à-dire des sites véritablement universitaires et de recherche, et de l'autre côté, des sites de popularisation de l'histoire, tels que vous le faites dans Euchronie. Sébastien Poublan.
C'est vrai, vous avez raison. On a l'impression que c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin quand on regarde ça. En revanche, ce qui nous importe, justement, c'est de comprendre de quelle manière la société, les acteurs, par le biais de cette passion française qu'est l'histoire, peuvent la restituer. Comment est-ce qu'ils peuvent se l'approprier ? Et c'est vrai que nous avons fait le choix d'agréger, de moissonner des contenus qui sont à la fois des contenus de professionnels et des contenus d'amateurs. Et c'est ça qui nous importe, puisqu'on ne sait pas finalement comment la société s'approprie l'histoire sur le net. Donc l'idée, c'est qu'en faisant ce corpus, on va pouvoir l'étudier et à comprendre un peu quelles sont les thématiques, comment est-ce qu'on les restitue, quel intérêt, quels champs en fait sont appropriés par quelle catégorie de la population. Voilà, donc ça, c'est cette idée de créer un corpus qui rendra compte en fait d'un nouvel objet de recherche qu'on propose d'appeler des connaissances sur le passé autopubliées en ligne.
Oui, Vincent Ozas, ça ne doit pas être facile quand on est moissonneur de se dire ça rentre dans le projet Uchronie et ça n'y rentre pas. Vous devez vous envoyer des mails très régulièrement les uns les autres puisque vous êtes pour l'instant au Canada, il y en a d'autres qui sont en Suisse, les autres sont en France, pour pouvoir se dire, ben voilà, est-ce que je le mets dedans ou est-ce que je chronique ou je ne chronique pas ce site ?
C'est une décision qui est prise avec un comité scientifique qui ont émis des propositions de sites sur une liste en ligne et qui sont validées en fonction de ces critères que Sébastien pourra rappeler plus aisément que moi. Puisqu'il participe à la sélection finalement.
Oui, alors Sébastien.
Alors le principal critère en fait, ça va être de créer un contenu autopublié. Par autopublié, on attend une personne qui va utiliser un média sans avoir à faire intervenir un tiers pour faire l'éditorialisation, c'est-à-dire enrichir le contenu.
Ça n'est pas, par exemple, les articles qui sont publiés dans des revues en ligne, parce que là, il y a un tiers, effectivement. C'est quelqu'un qui prend en charge soi-même sa propre publication.
Exactement, avec une petite marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de faire appel à la famille, par exemple, parce que la personne est incapable de mettre son texte sur le blog. Elle a fait la recherche, mais elle ne peut pas le faire. Voilà, mais c'est sans doute l'un des principaux critères de sélection. Et c'est vrai que ça donne lieu à des débats assez récurrents et animé pour savoir si ça rentre, ça ne rentre pas dans le corpus.
Vincent Ozas, le fait que vous soyez au Canada et que cette initiative, c'est une initiative franco-helvético-canadienne, ça n'est pas pour rien parce que vous travaillez avec d'autres et Rémi Besson, qui est le co-organisateur de ce site Chronie, est lui-même à Montréal. Vous travaillez aussi dans cet espace nord-américain où peut-être cet usage du net est plus simple que chez nous.
Non, non, je pense que habituellement je vis en France quand même.
Oui, je vois. Mais vous avez beaucoup travaillé pour vos travaux d'historien avec des Canadiens, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que cette bien passerelle sûr. Au-dessus de l'Atlantique n'est pas due justement peut-être à une sorte de naturalité des rapports?
Je pense qu'elle est plus le reflet d'un espace francophone dans lequel se réfléchissent les humanités numériques en ce moment, notamment en France. Et la constitution d'une association comme Humanistica y a beaucoup joué également. Je crois que effectivement l'Amérique du Nord et le Canada en particulier ont donné leur chance à la publication en ligne, la création de revues à laquelle Conserverie Mémorielle en 2006 en est le signe par exemple. Mais je ne vois pas aujourd'hui une différence nette entre l'Amérique du Nord et la France.
Alors, je l'ai dit, on peut trouver une centaine de liens, justement, sur ces blocs d'histoire. Le plus drôle, évidemment, par son nom, c'est Nick Temer. C'est un blog qui ça s'écrit NYCTHEMERES, et ça s'appelle également Mesure du rap. Ce sont donc deux historiens qui travaillent sur le rap, les paroles du rap et la façon dont elles disent quelque chose de la société contemporaine. Vous travaillez aussi, vous êtes le rédacteur en chef adjoint, Sébastien Poublanc, d'une autre initiative sur le net qui est très intéressante, qui s'appelle Mondes Sociaux, qui est aussi issue de l'Université de Toulouse. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, bien sûr. Alors, Mondes Sociaux est un magazine numérique porté par le label Structuration des Mondes Sociaux, qui est mon employeur. La particularité, c'est qu'on voulait faire connaître à l'origine les recherches appliquées sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'Université de Toulouse. On s'est rendu compte que si on devait monter une revue, ça prendrait énormément de temps, que la visibilité serait difficile à acquérir. Donc on a cherché une initiative originale. Donc ce qu'on a fait, un magazine dont l'idée est de vulgariser des recherches publiées, qu'il s'agisse de thèses, d'articles, d'ouvrages. Et cette vulgarisation adopte les codes du net.
Ça veut dire que vous n'avez pas peur du terme de vulgarisation,
non,
qui fait peur à beaucoup.
Pourquoi faudrait-il avoir peur
d'un
terme
qui... Vous avez raison, mais moi je pense aussi qu'on fait de la vulgarisation.
Ah oui, on peut l'appeler médiation culturelle, ouvrage scientifique, mais ça participe. Et c'est d'ailleurs ce qui est très important dans les humanités numériques. Les humanités numériques ont justement vocation à reprendre pied dans la société. C'est ce qui apparaît très, très fortement sur le manifeste de 2011. Mais donc voilà, pour Mondes Sociaux, l'idée c'était d'adopter les codes du web pour faire des papiers qui soient concis, tout en gardant leur scientificité, mais dépourvus d'apparat critique, pour être lus par des non-spécialistes. Donc l'idée c'est d'ajouter énormément de contenu numérique via des hypertextes, des liens hypertextes, via une iconographie, des illustrations qui sont toujours d'un ton assez décalé. Ça c'est notre marque de fabrique. Rajouter des vidéos. Et surtout faire la promotion des articles des chercheurs au niveau des réseaux sociaux.
Oui, c'est ce que vous faites aussi avec l'initiative en rejoignant Manon Bril, qui a lancé elle-même un blog vidéo sur l'histoire il y a quelques temps, et on l'aura bientôt dans la Fabrique de l'Histoire. Elle a publié, je crois que c'était la semaine dernière, la première vidéo sur Mondes Sociaux pour expliquer un article savant, mais raconté de façon drôle, plus aisée peut-être pour un public beaucoup plus large en l'occurrence.
Tout à fait, oui. C'est une nouvelle rubrique qui s'appelle Avide de recherche.
Voilà, Avide de recherche. Vincent Ozas, malgré l'heure, je vais vous poser encore une question puisqu'il est 3h et quelques là où vous vous trouvez. Donc, je vais vous laisser vous recoucher. Mais ensuite, vous pensez qu'il y a là une véritable... Parce que vous êtes vraiment très inspiré en tant qu'historien de ces questions du numérique. Il y a là un ressort qui n'est pas simplement un ressort de popularisation ou de vulgarisation de l'histoire, mais une transformation des modes d'écriture, comme le disait au tout début Sébastien Poublanc.
Oui, je pense d'abord sur la modalité d'accès aux sources et de questionnement de ces sources. Il y a une modification qui peut être assez profonde de la relation à l'écriture de l'histoire. Après, il y a de l'autre côté, on va avoir aussi... les blogs d'hypothèses le proposent, les revues en ligne également, une autre relation à la diffusion de cette connaissance. Donc, il me semble qu'il y a une évolution profonde qui est en train de se vivre et qu'il s'agit de pouvoir prendre le tournant.
Et vous la qualifieriez comment, cette évolution ? Parce que tout compte fait, il faut lui donner un nom, c'est la révolution numérique, dit-on, etc. Mais ça s'appelle comment pour l'histoire ? C'est-à-dire, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut dire de ce en quoi votre génération et vous-même en tant que jeune historien, eh bien, être bouleversé, chamboulé, pourrait-on dire, par ces nouveaux moyens qui vous sont donnés de popularisation et de recherche.
D'abord, il y a un questionnement sur la façon dont on doit appréhender les ressources. Si on avait un choix préalable à faire pour accéder à des journaux qui étaient soit conservés sous papier ou en diapositive, le questionnement est profondément différent avec l'écrit proposé par Gallica, par exemple. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a une méthodologie numérique à créer, à mettre en place.
Sébastien Poublan.
Je pense que les historiens, de par les différentes générations, ne sont pas tous égaux vis-à-vis de cette révolution ou de cette évolution numérique, et qu'il y a encore dans la redéfinition de l'atelier de l'historien des adjonctions d'autres disciplines à intégrer dans les formations, parce qu'on constate trop souvent que justement des oppositions sur des projets qui pourraient intégrer du numérique se font parce que les interlocuteurs, ou les chercheurs plus exactement, ne comprennent pas l'intérêt de développer des plateformes de diffusion ou des bases de données, et qu'il y a là une lingua franca à acquérir pour éviter...
En gros, vous êtes en train de dire que tous les universitaires ne sont pas d'accord et que dans les centres de recherche, vous avez parfois du mal à faire passer vos idées justement sur les humanités numériques. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Sébastien Poublan.
Non, je dis juste que je dis juste qu'il y a un problème de formation.
Voilà. D'accord, c'est un problème de formation et peut-être aussi des blocages intellectuels de générations plus anciennes qui peut-être ne voient pas l'intérêt de ces nouvelles techniques.
Alors d'expérience, j'ai constaté en tant qu'enseignant que c'est pas une question de génération.
Ah bon,
on peut avoir des étudiants en master ou en doctorat qui sont réfractaires très fortement, qu'on pourrait même qualifier de technophobes.
Oui, donc ça n'est pas une question de génération, c'est une question d'attitude par rapport à ces nouvelles technologies.
Il y a une image, recherche, googlisez historien. Vous allez tomber sur une personne d'un âge avancé avec des gants blancs dans une bibliothèque. Voilà quelle est l'image presque d'épinal de la profession d'historien.
Merci Sébastien Poublan d'être venu nous parler donc à la fois de la revue en ligne qui s'appelle Mondes Sociaux, mais aussi de Euchronie, ce site que vous concevez avec des moissonneurs, dont Vincent Ozas, que je remercie beaucoup d'avoir été au téléphone depuis le Canada. On trouvera tout cela sur le site de France Culture, de la Fabrique de l'Histoire, le nouveau site aussi rénové de France Culture. On trouvera le lien avec Euchronie et on pourra ainsi aller profondément dans ces références que vous nous donnez de tous ces sites consacrés à l'histoire. Merci à tous les deux.
Merci.
Bonjour à vous, Catherine Decopé.
Bonjour.
Vous venez tous les mois pour nous parler dans La Fabrique de l'Autre de la façon dont on qualifie un autre. Un autre, alors ça peut être barbare, les barbaroi par exemple. Ça peut être aussi un terme beaucoup plus récent, dont l'histoire d'ailleurs est difficile à faire. Et vous avez choisi aujourd'hui le terme qui est très connu des amateurs du web, à savoir le terme de « geek ».
Accro à la science et aux mythologies. Fan de science-fiction, cinéphage, rôliste, gamer, dingue d'informatique, notre passion n'a aucune limite. Nous avons formé une communauté. Nous avons accédé aux grands pouvoirs et aux grandes responsabilités. Nous avons pris le contrôle des machines. Combien sommes-nous ? Impossible à dire. Une seule certitude, nous sommes partout. Et plus nombreux chaque jour. Nous sommes les geeks. Bienvenue dans notre univers.
Alors, vous venez de l'entendre de façon fracassante dans cet extrait du documentaire Suck My Geek qui date de 2007. Il n'est pas très évident de définir ce qu'est un geek. Apparu dans les années 60 dans le monde anglo-saxon pour désigner les fous de maths et de nouvelles technologies, le mot geek tel qu'on l'emploie aujourd'hui est jeune puisque son usage s'est développé essentiellement à partir des années 90. Espèce de geek, truc de geek, alors une insulte, une catégorie à part, un mot fourre-tout, geek c'est un peu tout cela à la fois. Alors, en allant vite, on pourrait dire qu'un geek, c'est quelqu'un qui fréquente assidûment Internet et qui a acquis une bonne connaissance de cette technologie et de ses usages. Il serait donc un habitué, voire plutôt un drogué du web, mais aussi un spécialiste. Il en connaît le jargon, On parle même de jargique, l'histoire. Il suit ses évolutions de près et touche plus ou moins facilement à ce qu'il y a derrière le web, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent de le créer.
Oui, le code caché derrière les choses.
Le code et le langage informatique, les CMS, la fibre optique, le système, la mémoire et autres bidouillages. Je ne suis pas moi-même une spécialiste. Associé à la figure plus ancienne de l'informaticien, le geek est souvent de sexe masculin, quoique aujourd'hui on parle aussi de geekette, Emmanuel. Et il est considéré évidemment comme asocial, menant une vie peu saine, faite d'écran et de lumière artificielle. Régulièrement moqué dans les séries télé, les geeks se repèrent facilement grâce à ces clichés de gaucherie et d'inadaptation au monde réel. Les geeks sont ceux qui, par exemple, font des blagues que personne ne comprend. Attention cependant à ne pas les confondre avec les simples technophiles. Leurs goûts sont liés à l'univers d'Internet, aux jeux de rôle, aux jeux vidéo, à l'heroic fantasy, à la science-fiction, au point qu'on parle aujourd'hui de culture geek.
Alors ça, vous avez défini le terme, mais que nous dit maintenant l'histoire à propos du geek, Catherine de Copé ?
Cette définition du geek que je viens de tenter fait débat sur la toile. On trouve pléthore de discussions sur ce sujet dans les forums et les blogs. La plus grande question étant de savoir comment distinguer un geek d'un nerd, mais je passe mon tour pour cette fois. Alors pour ce qui est de l'histoire du geek, en effet, l'histoire même du mot geek, c'est un peu la même chose. Internet a une histoire très récente, en train de s'écrire, et il est très difficile de trouver des analyses historiques, académiques de la figure du geek, et idem pour l'étymologie. Je citerai cependant les louables efforts de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, une association qui réunit chercheurs de toutes disciplines pour faire émerger précisément les savoirs scientifiques autour du numérique. On y trouve de la sociologie, de la psychologie, mais encore beaucoup trop peu d'histoire. Cependant, comme l'imaginaire autour du geek est assez foisonnant, j'ai trouvé sur le web diverses hypothèses très intéressantes qui ne demandent qu'à être creusées.
Alors, à commencer par l'étymologie de ce mot geek, G2EK.
Geek, c'est un terme qui vient de l'anglais, où il signifie fou. Il viendrait de geek, un mot du bas allemand qui signifie la même chose. Alors, dans la langue anglaise, on trouve des occurrences de ce mot dès le XVIe siècle, dans Shakespeare notamment, où il désigne un sot, un fou, une personne en marge de la société. Ce sera également le cas bien plus tard dans la littérature américaine des années 20. Sur le plan historique, maintenant, le mot geek est très intéressant car il nous ramène à l'histoire du spectacle de rue. En Europe de l'Est, dès le XVIIIe siècle, le mot geek est utilisé pour désigner les personnages extraordinaires montrés dans les cirques ambulants, les monstres de foire, ceux qu'on exhibe pour leur difformité ou leur bizarrerie. Toujours à la même époque, mais cette fois en France, il faut rapprocher le mot geek du mot geek, qui signifierait en patois le fou de carnaval, celui qui symbolise la démesure, la fête, le divertissement. Alors, si on passe maintenant la frontière pour aller en Belgique à la même époque, on retrouve une autre figure de carnaval traditionnelle dont le nom se rapproche de geek, le Gilles, ce personnage à l'incroyable chapeau de plume emblématique du carnaval de Binche. Alors pour terminer ce petit voyage, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, où le terme geek a également été associé au spectacle, en particulier au XIXe siècle, où il a pris aux États-Unis cette même signification de monstre de foire. À cette époque, le geek devient alors la figure centrale de ce qu'on appelle les sideshows, ces petits spectacles montrés en marge des cirques pour attirer la foule. Le geek se confond alors avec le freak, la créature monstrueuse, inhumaine, repoussante, miroir de ce que rejette la société. Reste à savoir ce que le geek contemporain aura gardé du freak d'alors, mais je laisse le soin de cette enquête aux futurs historiens.
Et on a bien compris, Catherine de Copé, que cette enquête est difficile parce qu'elle n'est pas encore fixée. Il faut qu'un historien se mette sur ce terme-là et je suggère à l'équipe de Sébastien Poublan de Cimerte, qu'est-ce qu'un geek et quelle est son histoire? Ça pourrait être un bon titre de blog.
Les vocations sont ouvertes.
Nous allons y réfléchir et c'est très intéressant justement de voir qu'en plus dans les humanités numériques, on est souvent associé à la bande de geeks.
Merci à vous, merci à tous. Je rappelle que nous allons parler en première partie de cette émission des travaux de Kmar Bentana à l'occasion de la parution du dernier numéro de Collection de l'Histoire de Carthage à Tunis, 3000 ans d'exception, puis avec vous de Chronie et également de Mondes Sociaux. Mais il faut remercier Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marcet comme tous les jours, Emmanuel Morsdinkan qui était à la technique aujourd'hui et Véronique Samuilov à la réalisation.